Il y a 2 ans, je me suis demandé si l'heure de la retraite n'était pas arrivée pour moi. Vraiment. Juste avant la pandémie, on avait eu comme un 8-9 mois très intense. Là, où on avait quand même monté à tout près de 275 inscriptions. Là. J'aurais pu arrêter. Et finalement, ma blonde a dit « T'es-tu fou? » J'en ai eu au moins pour 10 ans là, que j'étais totalement déséquilibré. 7 jours sur 7, 15-16 heures par jour. J'oubliais de manger, j'étais sur l'adrénaline. Je gagnais 1$, j'en mettais 1,25$ en publicité. Moi, ma crise de la quarantaine, je l'ai fait à 30 ans. J'ai eu vraiment une période très difficile là, où là, je me demandais pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais fait ça comme ça aussi. C'était hors de question pour moi de laisser tomber ma famille ou même d'arrêter de faire de l'immobilier parce que j'avais la passion. Moi, j'ai débuté à Sherbrooke. Il y avait un gars qui s'appelait Jean-François Toutant qui avait débuté en 91, qui était vraiment là, un top, un leader dans le courtage, mais pour les premiers acheteurs. Puis malheureusement, rapidement après mon arrivée en 99, tumeur cancéreuse, chirurgie, traitement de chimio, radio pendant presque 2 ans.
Puis je te sens émotif en plus.
Ah ouais, vraiment, c'est comme un frère pour moi. Là.
Bienvenue dans le ring immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Plancher 2000, Soutenir et Martin Ross, avec Jean-Sébastien Boiteau et Mégane O'Donnell.
JF Bérubé, Jean-François. On va commencer par Jean-François, mais j'ai l'impression de le connaître depuis des années. Puis je t'ai surpris hier en te disant que je t'avais envoyé une référence il y a 17 ans. Ouais. Ça nous donne un peu...
Je me suis souvenu de la cliente.
Oui, exactement. Ça me fait plaisir que tu sois là. Jean-François, je t'avais lancé l'invitation. Ça n'avait pas à donner dans la saison 3. On est assis ensemble. On a plein de choses à se compter. On a Mégane qui est encore avec nous et avec plaisir.
Bonjour.
Co-animatrice. Jean-François, ça va bien?
Très bien.
Oui?
Toi aussi?
Oui, oui, ça va bien. Ça va bien. Jean-François a une grosse équipe qui est, disons-le, qui est bien établie dans les cantons de l'Est, plus précisément à Sherbrooke.
Oui, exact.
Quand je dis bien établi, tu parlais, on va sauter d'un chiffre, mais après ça, on est curieux de voir la personne là, avant les chiffres, mais... Tu parlais de, avant la pandémie, un volume de 200 inscriptions, puis...
Oui, en fait, avant la pandémie, on avait connu... En fait, il faut savoir, juste avant la pandémie, on avait eu comme un 8-9 mois très intense, là, où vraiment l'inventaire commençait à diminuer un peu plus à Sherbrooke. Puis à notre grand désespoir, quand le gouvernement a décidé de couper, en fait, les visites et tout ça, on était bien déçus parce qu'on avait vraiment eu une période plus difficile. Mmh. Et là, on avait quand même monté à tout près de 275 inscriptions. Là. Ouais. C'était énorme. La gestion là, pour maintenir ça, puis maintenir le service, c'est beaucoup de choses.
C'est sûr, 275 inscriptions. Puis c'est attribué à quoi de passer à un si haut niveau dans votre stratégie d'affaires?
Une multitude d'efforts. On était très présents. En fait, j'ai toujours dit la foule attire la foule. Tu te promènes dans un quartier où il y a beaucoup d'enseignes, beaucoup de propriétés à vendre. On était littéralement dominant là, sur le nombre de listings actifs. Puis ça peut avoir aussi l'effet inverse. Hein. Parfois, le client t'appelle pour inscrire sa propriété puis dit « Pourquoi je te mandaterais toi? » Parce qu'au final, ça va peut-être... c'est quoi ton avantage de vendre ma propriété versus une autre propriété?
C'est drôle que tu dises ça parce que hier on a reçu, à l'inverse, un courtier qui commençait pour connaître, se rafraîchir la mémoire, comment est-ce qu'il vit ça. Puis c'est ce qu'il expliquait. Lui, à l'inverse, il disait « ben moi, je vais avoir du temps à vous donner. »
Oui, exact. Mais au final, nous, ce qu'on... Tu sais, je pense qu'il faut comprendre un peu la psychologie d'un acheteur avant de faire son choix. Généralement, ils vont visiter pas mal tout ce qui est disponible. Mm-hmm. Donc, c'est assez difficile de canaliser quelqu'un là, sur une maison spécifique. Là. Je pense qu'il n'y a pas de parole assez forte pour être capable de convaincre un acheteur d'acheter une propriété qui ne lui plaît pas. Ça, c'est mon humble avis. Mais au final, on est quand même dans une situation où que quand on a un bel inventaire et qu'on maîtrise bien nos dossiers, je pense que c'est une bonne façon de représenter nos vendeurs puis d'amener l'acheteur à faire un achat réfléchi. On ne fait jamais de vente par dépit, en réalité. Les gens finissent toujours par acheter une maison qui leur plaît. Je ne me souviens pas d'avoir fait une transaction puis qu'un acheteur me dit « je regrette mon achat ». Je ne me souviens pas de ça. À moins qu'il y ait une difficulté financière qui était imprévisible, mais au final, on réussit toujours à bien cerner les besoins des gens.
Mais un acheteur, moi, je trouve, c'est, tu sais, ils savent déjà avant de rentrer dans la maison que c'est elle. Ouais. C'est comme un feeling. Ils ouvrent la porte, puis c'est, tu sais, ils savent tout de suite. Genre, très souvent, j'ai reçu des acheteurs, puis ils m'ont dit tout de suite, c'est cette maison-là que j'achète. Puis on en a visité 50 avant, là, fait que...
Le feeling.
Oui.
Pour tenir ça, ce gros fort-là, vous êtes combien dans l'équipe?
On est 7, incluant moi. Et j'ai une équipe administrative d'environ 3 personnes, là, en fait, 2 temps plein, 1 temps partiel, qui nous permet de couvrir vraiment 7 jours semaine. On a déjà eu plus. J'ai déjà monté à 6 adjoints adjointes quand on avait 250 inscriptions.
Oui.
Pour monsieur et madame tout le monde, ça représente, ben écoute, Jean-François, on a repeint la salle à manger, on va refaire les photos. Le souffleur à neige a cassé l'enseigne. On aimerait te rencontrer, prendre un café, te parler de la stratégie. On occupe nos journées et nos semaines à maintenir le service puis répondre aux inquiétudes et au stress que nos vendeurs vivent. Parce que quand tu veux vendre ta propriété, tu veux la vendre. Je dis souvent aux gens, vous m'appelez, c'est pour vendre. C'est pas parce que vous cherchez un ami.
Non, non, c'est ça. Ah ouais. Mais c'est, je suis content d'entendre ça parce que souvent, les équipes productives peuvent avoir une autre notion puis délaisser le service ou pas avoir l'attention. Ce que je remarque aussi, c'est que tu es quelqu'un qui semble être très méthodique, efficace parce que ton temps est important. Puis des fois, quand on commence, surtout comme entrepreneur, on a comme un malaise de partager l'importance de notre agenda à nos clients.
Oui.
Mais quand on fait affaire avec des gens aussi qui ont une importance...
Ils sont en affaires.
Qui sont en affaires, ils comprennent très bien. Puis je pense que, tu sais, la majorité de ta clientèle... Vous avez une belle clientèle...
En fait, on a la plus belle clientèle, dans le sens où que...
C'est pas vrai, c'est nous qui avons la plus belle.
Ben, on est probablement dans la même équipe.
Oui.
Mais au final, c'est que on a... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais on se garde le choix de travailler avec qui on veut travailler. Je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que si on se parlait aujourd'hui puis que j'étais pas bien dans ma discussion, je pense que vous seriez pas bien aussi. Souvent, c'est bilatéral.
Mm-hmm.
Alors, ça nous arrive à l'occasion d'avoir des rencontres avec des individus, puis on ne sent pas la chimie, on ne force pas les choses. J'ai toujours dit, même pour les jeunes courtiers qui commencent, de forcer une transaction, d'être dans une situation d'inconfort, c'est risqué pour le futur de la carrière. Parce qu'on va plus carburer sur les belles transactions, les belles expériences humaines. C'est là-dessus qu'on va surfer. Mais on va souvent se souvenir des pires expériences de notre courtage immobilier. Hein? C'est vraiment ça.
Oui, tu as raison. Je pense qu'il faut avoir une expérience, une confiance pour arriver où ce que tu es. Parce que quand tu commences, ben, tu as besoin d'avoir naturellement des produits. Mais quand tu es rendu avec une si grande expérience, tu le comprends, ça.
Oui.
Tu le comprends. Puis, à l'inverse, je me permets de peut-être te challenger, JF, c'est que quand on fait des clients qui sont peut-être pas dans nos principes, ben c'est de l'expérience qu'on acquiert.
Oui.
Puis, on est plus fort, puis c'est là qu'on arrive avec la confiance.
Oui, effectivement. En même temps... On a une offre, chaque équipe, chaque agence offre un produit, un service distinct. C'est pas vrai qu'on peut combler tous les besoins.
Absolument.
Je pense qu'il y a aussi une limite qu'il faut se dire, ben regarde, moi, ma formule, c'est ça que j'ai à offrir. Voici, puis je m'engage à vous offrir, puis je m'engage à mettre les efforts. Mais parfois, les vendeurs ou les acheteurs ont des besoins, une réalité différente qui vont peut-être être plus propices de travailler avec une autre organisation. Puis je pense qu'il faut respecter ça.
Absolument.
Il faut le respecter.
Oui.
Puis parfois, même c'est nous qui avons pris l'initiative d'informer le vendeur ou l'acheteur, disant peut-être que telle personne qui est un de nos compétiteurs peut-être peut bien vous répondre. C'est pas un piège, là. C'est une réalité parce que la clientèle que j'attire vers mon entreprise, c'est souvent une clientèle qui nous ressemble. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses, mais oui, ça prend de l'expérience, ça prend une forme d'assurance, mais il y a aussi le fait, je pense, que quand tu fais ton travail par choix, c'est différent que lorsque tu le fais par obligation.
100%.
Oui, c'est totalement 100%. Différent.
Tu es un gars avec de la constance, tu es un gars loyal, Ça fait 25 ans que tu fais de l'immobilier.
Ouais,
ça
moi,
fait
novembre.
27 ans que tu es marié avec 3 enfants. Ouais. La combinaison de famille puis...
En fait, j'ai toujours... faut dire que lorsque j'ai débuté en 98, de 98, j'en ai au moins pour 10 ans là, que j'étais totalement déséquilibré. OK, là, je ne le cachera pas. Là. Je recommande à personne de commencer de façon aussi intense que j'ai pu travailler. C'était... Ça, ma femme pourrait vous le confirmer. 7 jours sur 7, 15-16 heures par jour... J'ai oublié de manger, j'étais sur l'adrénaline, je carburais à faire des transactions. J'ai jamais parlé de faire de l'argent, je carburais à faire des transactions. Mmh. Je gagnais 1$, j'en mettais 1,25$ en publicité. Le cash flow était difficile, je travaillais sans réfléchir jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ans, 31 ans. Moi, ma crise de la quarantaine, je l'ai fait à 30 ans. J'ai eu vraiment une période très difficile là, où là, je me demandais pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais fait ça comme ça aussi, vraiment prendre le temps de me détacher. J'allais chercher de l'aide pour être capable vraiment de faire le ménage. C'était hors de question pour moi de laisser tomber ma famille ou même d'arrêter de faire de l'immobilier parce que j'avais la passion. Mais ce que je disais souvent, c'est que par exemple, vous aimez faire du snowboard ou du skateboard, faites-en pendant 7 jours, semaine, pendant 10 ans, avec autant d'heures, ça se peut qu'à un moment donné, votre passion passe. Et c'est là vraiment que j'ai pris la décision de dire, dorénavant, je vais continuer à faire de l'immobilier, mais d'une façon différente. Facile à dire, c'est pas facile à faire.
C'était quoi le déclic qui a fait comme... Okay.
L'épuisement. Je pense que c'est vraiment l'épuisement. Puis en même temps... Moi, j'avais toujours... quand j'ai démarré, en fait, en 98, j'étais pas vraiment vieux. J'étais début vingtaine. Vraiment, j'avais 20 ans. J'étais dans un milieu où la moyenne d'âge des courtiers là, était de 50 ans.
Oui.
OK? Nous, en Estrie, à l'époque, on était 214 courtiers. Il y avait moi qui avais 20 ans. Après ça, c'était 30, 32, 40. Après ça, 55, 60. Il n'y en avait pas de jeunes. J'étais un extraterrestre. Là. Mm. J'ai jamais compris comment mes parents ont fait pour m'encourager à aller en immobilier. C'était vraiment un... En fait, c'était du nouveau. Puis vraiment, j'ai sauté là-dedans vraiment tête première.
Tes parents, c'était des entrepreneurs?
Mon père est entrepreneur, oui, effectivement. En fait, j'avais quand même la fibre entrepreneuriale, mais au niveau de la vente, c'est même pas l'immobilier, moi, en fait, qui m'a amené à faire ce métier-là. Moi, j'avais le goût d'être sur la route et rencontrer des gens. C'est ce qui m'a amené à faire du courtage immobilier. Là. C'est juste pour vous dire que c'était juste d'avoir un emploi du temps qui me donnait l'impression de faire une activité et non pas un travail. C'est vraiment ça.
Ça a été
ça, en fait, la
réflexion
première. Si tu
réussis à trouver ça à cet âge-là, tu fais partie d'une minime portion de la population. Ça veut dire que tu as commencé dans la vingtaine à déjà développer ta passion.
Mais surtout pour ces raisons-là aussi. Parce que ces raisons-là, c'est quand même assez avancé émotionnellement d'être capable de dire ça. Plusieurs de gens qui commencent aussi jeunes, c'est pour l'argent.
Il faut dire que j'avais eu la chance de travailler dans l'industrie que mon père avait. C'était vraiment...
C'était dans quel domaine?
En fabrication de portes d'armoire de cuisine. On parlait d'industriel. Un milieu qui ne me rejoignait pas du tout. OK, j'avais pas d'intérêt. J'aurais pu continuer dans l'entreprise, mais au final, c'est pas ce que je désirais faire. Mm. J'aurais peut-être pu travailler dans cette entreprise-là comme représentant de l'entreprise aux ventes, au développement. Mais avec du recul, c'est facile aujourd'hui de dire j'aurais peut-être dû, mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir.
C'est ça.
Mais c'est vraiment, en fait, ces éléments-là qui m'ont amené à travailler, à vraiment... Il faut que tu aies une passion pour les gens pour faire ce travail-là.
Clairement.
Je dis souvent, dans le cadre d'une transaction immobilière, combien de temps on va prendre à parler de la maison, tu sais, du bâtiment, là? C'est bien plus la discussion avec des inquiétudes, transactions importantes pour les gens, des encadrés, des conseillers, leur dire si vous allez là, probablement qu'il va arriver telle chose, de laisser choisir, mais des encadrés, de vivre le stress avec ces gens-là, en fait, puis des supporter, puis des encadrer, je pense que c'est le rôle numéro un d'un courtier.
Absolument, c'est bien dit. Dans cette période-là, T'as eu l'opportunité de commencer avec quelqu'un qui, aujourd'hui, quand t'en parles, t'as un grand respect. Cette personne-là t'a donné aussi un grand défi.
Oui, exact.
À deux reprises, quand t'es rentré et un peu plus tard.
Oui, exact. En fait, moi, j'ai débuté à Sherbrooke. Moi, je suis natif. J'habitais à Quaticook. Là, la crème glacée Quaticook, là, qui est très bien connue. Milieu agricole, milieu de travailleurs, vraiment milieu, une petite municipalité, mais qui s'est toujours démarquée. Ça n'a jamais été une municipalité pauvre. Ça a été vraiment là, un bel endroit pour ceux qui sont déjà allés. Il y a vraiment des belles choses. Population tissée serrée. Et puis, évidemment, moi, c'est à 30 minutes de route de Sherbrooke. Puis, il y avait un gars qui s'appelait Jean-François Toutant qui avait débuté en 91, qui était vraiment là, un top, un leader dans le courtage, mais pour les premiers acheteurs. Il avait débuté début vingtaine. C'est un gars qui était extrêmement avancé au niveau technologique. Je vais toujours me souvenir, quand j'ai commencé en 98, lui, il avait fait ses premiers panneaux publicitaires en 96. C'est cliquer, c'est fureter, c'est l'annonce d'une page web alors que personne n'avait Internet. Là, okay? Wow. C'était une publicité que les gens ne comprenaient même pas c'était quoi le web à l'époque. On avait nos ordinateurs, on avait un réseau interne câblé pour s'envoyer des courriels. On n'avait aucun client qui recevait des courriels. Ça a toujours été un gars très, très, très innovateur qui m'a vraiment beaucoup, en fait, qui m'a tout appris.
Mais je vais faire un aparté, c'est quand même spécial. Tu sais, on parle de 96, c'est pas tant loin, puis on réalise qu'en 96, ça commençait.
Ça commençait.
C'est,
on avait encore les livres MLS à cette époque-là.
Les livres MLS.
Les cartables. Oui. Exactement.
Les pagettes.
Oui. Alors, on se demandait pourquoi ils faisaient tout ça. Parce que ça fonctionnait bien de l'ancienne façon. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, mais lui, il fouillait, puis il s'est démarqué comme ça, en fait. Et puis là, moi, j'ai eu la chance de commencer en 98 comme adjoint, qui était à ce moment-là l'équipe Toutant chez Remax. Puis malheureusement, rapidement après mon arrivée en 99, tumeur cancéreuse, chirurgie, traitement de chimio, radio pendant presque 2 ans. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai eu l'occasion de prendre le relais de son entreprise. Je l'avais toujours en support, mais évidemment que lui, avec le niveau d'énergie qu'il pouvait avoir, je l'avais toujours en backup pour être capable d'être accompagné, encadré, parce qu'évidemment que je n'avais pas son expérience à l'époque. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, malgré mon jeune âge, c'est que les gens me disaient « T'es jeune, donc tu commences. Mais si Jean-François Toutant te fait confiance, c'est qu'on peut te faire confiance. » Fait que ça a été vraiment pour moi un levier. Puis je vais toujours me souvenir, je ne suis pas gêné de le dire, là, en 98, là, pour avoir la chance de travailler avec cet individu-là, j'ai accepté un salaire vraiment minime. Là. Pendant 2 ans et demi de temps, je gagnais 21 000 $ OK? Dans cette période-là, au mois de janvier 2001, je vais toujours me souvenir, j'avais une adjointe à temps partiel pour faire les textes. Je prenais les photos, les mesures, je prenais les inscriptions, je faisais les visites, je faisais les ventes. Dans un mois, j'ai pris 26 listings, j'ai fait 29 transactions. Wow. Je vais toujours m'en souvenir de ça. Puis
t'étais à l'université vitesse grand V.
Ouais, je me disais, je fais une année d'expérience d'un courtier normal en un mois. Fait que pour moi, là, ça n'a jamais été l'argent, ça a toujours été l'expérience. Je me disais, je vais sortir de là avec une clientèle. Puis pour moi, c'était mon défi numéro un, dû à mon jeune âge. Puis je vous rappelle qu'on était dans une situation où la moyenne d'âge était très élevée. Donc, le facteur, j'avais vraiment un vent de face. Mais au final, c'est tous ces éléments-là qui ont forgé mon caractère, fait mon expérience. Puis j'ai toujours été très reconnaissant pour par rapport à Jean-François, parce que pendant plusieurs années, ses problèmes de santé ont fait en sorte qu'il n'a pas beaucoup travaillé. On a créé l'équipe Bérubé tout temps après coup chez Remax pour faire l'acquisition d'une franchise Royal Lepage à Sherbrooke qu'on a maintenue en fait jusqu'à 2010. Moi, je l'ai racheté 6 mois avant son décès. Mais pendant toutes ces années-là, pour moi, c'était naturel de gérer l'entreprise comme s'il n'était pas là, dû au fait que je lui devais tout. Puis d'ailleurs, on a aménagé des nouveaux bureaux à Sherbrooke. Puis la pièce principale de nos bureaux, c'est une grande cuisine avec un grand îlot, un salon, des téléviseurs. Puis il y a une grande affiche, là, puis c'est l'espace Jean-François Toutant.
C'est drôle parce que je n'osais pas te le demander, mais je me disais, c'est puis je te sens émotif en plus.
Ah oui, vraiment, c'est comme un frère pour moi, là. Ouais. Je suis parrain de sa plus jeune, en fait, puis, tu sais, ça a été vraiment, là, en fait, on est des... quand on dit la human touch, là, est importante, là, tu sais, c'est comme ça qu'on vibre. Ça n'a jamais été la commission qui nous a fait travailler, ça a été répondre aux besoins d'un client, faire la connexion avec les individus, ça a toujours été de quoi de bien important pour nous autres.
Ton chum serait fier de toi?
Je pense que oui. Oui, exact. Je pense que oui. Puis d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai Charles-Eugène Boutin, qui est un de mes associés maintenant depuis un an et demi dans les deux agences qu'on détient. Il fait pas de courtage, là. Il est vraiment directeur d'agence. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est Jean-François Toutant qui l'a embauché une semaine avant son départ. Fait que pour nous, d'avoir la pièce Jean-François Toutant, c'est comme le point d'ancrage dans notre organisation. Fait que
c'est très cool.
Ça donne un beau spirit.
Merci de nous partager ça avec autant d'émotions. On le reçoit, puis on le comprend, JF. T'es un gars engagé. T'es impliqué comme président au niveau de la Fondation CHU.
Oui, exact.
Si tu veux nous en parler.
Oui, ben en fait, ça a débuté... en fait, dans le travail qu'on fait, souvent, on est impliqué à rencontrer des gens de différents milieux, souvent le milieu des affaires. J'ai toujours compris que les gens les plus occupés, c'est ceux qui sont les plus engagés ou les plus engagés sont les plus occupés. Finalement, on pense qu'on en a toujours trop, mais on finit toujours par en gérer davantage. Puis, à un moment donné, la Fondation du CHU à Sherbrooke, quand même une organisation importante, parce que le centre hospitalier à Sherbrooke, c'est le plus gros employeur en Estrie. Et on est chanceux d'avoir, d'ailleurs, un centre hospitalier comme celui-là avec un centre de recherche incroyable. Là. On a des sommités mondiales. Donc, pour la région, là, c'est vraiment là, un moteur économique, sans minimiser le fait que les services à la population sont extraordinaires. On n'a pas besoin de monter à Montréal ou à Québec pour avoir les traitements. Puis, je me suis impliqué dans différents sous-comités, sous-pays gastronomiques et tout ça, sans me rendre compte qu'à un moment donné, on m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration. C'est jamais quelque chose que j'ai désiré, que j'ai jamais voulu obtenir, mais ça s'est présenté à moi. Puis rapidement, on m'a demandé d'occuper la présidence du conseil d'administration. J'ai pris un an de réflexion. Ma blonde n'était pas du tout d'accord. Parce que tu parles de conciliation, travail, famille, hein? Ça dit, parce que tu en fais déjà pas mal. Comment tu vas faire pour gérer tout ça?
T'aimes ça, mais il semble que je l'entends, moi aussi, ma femme.
je me suis dit, Adigan, si tu le fais, c'est correct, mais je veux pas en entendre parler. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que finalement, après un an, j'ai décidé d'accepter le poste. Première année a bien été, mais c'était quand même deux jours de bénévolat par semaine. Wow. Il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes choses en place, mais j'avais une vision différente, en fait, que je voulais amener la Fondation selon mes couleurs. J'avais une belle organisation, mais j'ai toujours dit, si ça va bien, c'est grâce à moi, puis si ça va pas bien, ça va être à cause de moi. J'en prends l'entière responsabilité. Mais j'ai dit, si je vais en prendre la responsabilité, je vais être obligé d'aller dans les détails puis vraiment mettre mes couleurs partout. Fait que finalement, je suis allé au bout de mon idée. Fait que les deux premières années, là, ça a été...
Je pense que n'importe quelle fondation veut avoir quelqu'un qui a ce minding-là. C'est pas pour rien que tu es président rendu là avec ce que tu expliques là.
Mais je pense qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi ils m'ont demandé d'être là. J'ai finalement accepté en me disant que j'allais être capable de relever le défi, mais c'est devenu rapidement ma fondation, tu sais, comme mon entreprise. Évidemment, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués, puis on va parler de l'aspect politique. Je ne sais pas si c'est politique, mais c'est surtout de prendre des décisions dans le respect des gens qui sont là, d'écouter les gens, laisser la parole aux gens autour, alors qu'en entreprise, souvent, on va prendre la décision. Bon, on ne va pas l'imposer, mais au final, c'est nous qui allons prendre la décision pour aller dans une direction ou dans une autre. Mais finalement, avec la Fondation, ça a été deux belles grosses années. Là, présentement, on est vraiment en stabilisation, vraiment pour... On ne fait pas des changements pour faire des changements. On fait des changements pour améliorer les choses. Puis quand on voit que le progrès s'installe, bon, on laisse aller les choses un peu pour s'assurer que tous les gens en place fassent éclater leurs couleurs, puis que la fondation prenne son autonomie, puis qu'on puisse à ce moment-là s'assurer que si il y a Jean-François Bérubé qui quitte ou d'autres personnes du conseil d'administration, que l'autonomie de l'organisation se maintienne. Parce qu'en santé, là, les besoins là, sont incroyables.
Ah ouais.
Puis $1 million en santé, là,
c'est vite dépensé.
Et c'est incroyable. C'est incroyable.
Tellement dur à aller chercher, mais ouais, vite dépensé.
Puis en même temps, on voit, là, tu sais, il y a tout le changement de génération. Hein, nos baby boomers quittent. Les gens d'affaires vendent leur entreprise. C'est vendu soit à des intérêts étrangers, compagnies ontariennes. On a moins de familles qui détiennent ces grandes entreprises-là. Donc, le défi pour les différentes fondations, c'est de trouver des donateurs, des petits, des moyens, des grands donateurs, puis de s'assurer d'avoir les fonds nécessaires. Parce que nous, là, quand le directeur général du centre hospitalier nous envoie la liste d'épicerie, des thèmes qu'il aimerait qu'on achète, on aime bien ça pouvoir dire oui. Mmh. Mais pour pouvoir dire oui, ça nous prend une équipe à la fondation qui est sur le terrain au quotidien pour s'assurer qu'on ait cherché un maximum d'entrée d'argent, là.
C'est remarquable. Bravo, Jeff. 25 ans de métier, implication comme tu le fais dans la Fondation CHU. Est-ce que... C'est quoi les ambitions de Jean-François à partir d'aujourd'hui? Là? C'est où tu veux aller dans les deux dans l'entreprise, dans la Fondation, après ce que tu as accompli?
Au niveau de la fondation, je suis déjà à la dernière année de mon deuxième mandat. Généralement, c'est deux mandats ou 4 ou 5 ans.
Okay.
Je ne sollicite pas d'autres mandats. De toute façon, c'est le conseil d'administration qui vont décider où ils veulent aller. Moi, si on peut avoir d'autres vents de fraîcheur, des nouvelles idées, ce qui est important, c'est la fondation. C'est pas le poste que j'occupe. Ça. Donc, ça tire sur sa fin. Maintenant, au niveau de l'entreprise, les défis sont énormes. Moi, mon défi numéro un, c'est d'avoir du plaisir. Je le dis, là, ça, c'est numéro un. Je dois avoir le goût de rentrer au bureau. Je dois avoir une organisation qui est heureuse, qui est enjouée, qui est énergique. Ça, c'est mon ambition numéro un. OK? Pour en arriver là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choix dans ton entourage. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont cadrer, d'autres qui ne cadreront pas. Donc, vraiment, le noyau de l'organisation, l'esprit d'équipe, ça, pour moi, c'est une priorité.
Puis comment... C'est ça la base, je pense, de tout. Nous autres aussi, c'est la même chose, mais comment est-ce que tu amènes ça à ton équipe? Comment est-ce que tu amènes l'équipe d'avoir... Bien, c'est sûr qu'on engage le monde avec les mêmes valeurs, là, mais comment tu amènes ça à ton équipe?
En fait, c'est je pense que ça passe beaucoup par l'attitude. Tu sais, nos courtiers, là, sont toujours un peu à la merci du marché. Hein? Donc, comme j'expliquais un peu d'entrée de jeu, un courtier qui va avoir une séquence incroyable, oui, regarde, ça va être le résultat des efforts. Ça, on s'entend là-dessus, mais parfois, on peut avoir quelques bons coups de chance puis vraiment avoir des résultats exceptionnels, OK? Ça ne fait pas nécessairement un courtier exceptionnel pour cette période-là, OK? Je pense que c'est important, en tant que team leader, de niveler, en fait, les émotions ou d'avoir une constance sur l'attitude de nos courtiers. Au même titre que quand ils vont pas bien, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut dire qu'il faut juste les maintenir à leur dire, la dernière fois, quand ça a été plus difficile, c'est quoi qu'on a mis en place? Mmh. On va aller une journée à la fois. Ça donne rien de prévoir ce qui va arriver dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme tâches qui vont être profitables pour ta clientèle et par la bande qui vont être profitables pour toi? C'est vraiment ça, en fait. Ce que je trouve qui est le plus difficile là, après autant d'années, souvent les gens vont nous dire « Qu'est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? » Il faut juste décortiquer les petites tâches qu'on fait au quotidien. Ça veut dire quoi au quotidien? C'est que rendez-vous pour rendez-vous, tu te pointes au bureau.
Oui.
Tu te pointes au bureau. Là, te pointer au bureau, ça veut dire qu'il y a un appel qui rentre, tu es devant ton ordinateur, tu es prêt. Là, il y a un courtier qui va arriver, je prends un nouveau listing, hop, tu as un acheteur. La chimie d'une organisation est primordiale. Puis d'ailleurs, dans mon cas, moi...
Bien, en fait, c'est si tu veux créer une culture d'entreprise puis qu'elle soit vivante, il faut qu'il y ait du monde au bureau.
Ouais.
Faut que ça bouille.
Ouais.
Puis la culture d'entreprise aujourd'hui, en 2023, on en parle pratiquement à chaque fois.
Ouais.
C'est essentiel. Ouais.
ça a été difficile, la pandémie, avec le télétravail. Ah oui. Pour nous autres, là, ça a été, pour moi, en fait, ça a été très difficile. Moi, j'ai besoin de sentir, de parler, voir le non-verbal. Tu sais, t'as beau me dire « ça va bien », mais si ça va pas bien, je vais le voir dans tes yeux, tu sais.
Mais toi, le Jeff, je t'écoute, là, c'est assurément le profil parfait pour la politique et c'est sûr qu'on te l'a proposé à Sherbrooke.
Ça semblerait. Ah ouais. Mais ça ne m'intéresse pas.
Non, non.
Je lève mon chapeau, ouais, à ceux qui font ça. Ouais. Ouais. J'ai l'occasion de... avec la fondation d'Ichu, d'avoir à prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Je suis convaincu qu'en politique, il n'y en a aucun qui fait des choix dans le but de déplaire, mais forcément que ça arrive.
Hein? Oui. Non, non, c'est clair.
Puis tout le monde a droit à son opinion. Ouais. Mais je peux pas me rendre là.
C'est quoi un bon leader pour toi?
Ben, en fait, je pense que pour être un bon leader, premièrement, il faut que le leader soit bien avec lui-même, il faut qu'il ait confiance en lui. OK? Un bon leader ne peut pas être trop impliqué dans la totalité des tâches quotidiennes. Un bon leader doit être capable de prendre du temps, de réfléchir, d'être capable d'avoir une photo d'aujourd'hui, d'une photo de demain, puis d'avoir une vision pour les prochains mois puis les prochaines années. Puis être capable aussi de comprendre ce qui fait que... parce que ce que les gens ne peuvent pas s'imaginer, c'est à quel point le marché évolue rapidement actuellement. La façon dont on faisait du courtage, là, en 98, on le disait avec les livres MLS, ça, c'est une chose. Avec les fax, c'est une chose. Les pagettes numériques, c'est une chose. Là, on ne parle même pas de technologie. Aujourd'hui, là, on a des outils pour mesurer le marché au quotidien, les valeurs au quotidien. Si ces outils-là sont disponibles, on doit s'en servir pour être capable de bien analyser puis bien conseiller notre clientèle. Fait que ça prend du temps pour faire ces lectures-là.
Et la marge d'erreur est beaucoup plus mince.
Exactement, exactement.
Parce qu'il y a tellement d'outils alentour. L'erreur, pourquoi qu'il y a une erreur avec tous les outils qu'on a?
Exactement, exactement. Donc, je pense que ça prend une base de connaissances, mais je pense que ça prend l'attitude qui vient avec. Puis ça, l'attitude, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Je pense,
oui, non, je suis d'accord.
Je pense que si tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je ne suis pas mieux qu'un autre. Je suis juste différent que les autres, point final.
Qu'est-ce que, comme leader de GF aujourd'hui, n'a pas encore acquéri ou cherche à avoir ou à améliorer?
Je suis probablement dans la meilleure phase de ma vie actuellement. Dans le sens où que mon plus grand défi là, a toujours été, je vous rappelle, le plaisir. Mais pour être capable d'avoir le plaisir, ça me prenait l'équilibre. Souvent, je dis mon équilibre est parfait dans le déséquilibre parce qu'en réalité, au niveau du courtage immobilier, je pense qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont comme ça. On est des éternels insatisfaits. C'est jamais assez. On travaille en enfer une. Oups, la transaction est faite. C'est déjà oublié. On est rendu à la suivante. Ça, c'est sans arrêt. c'est sans arrêt. Alors, pour moi, c'est d'avoir vraiment une forme d'équilibre. Tu sais, j'ai eu l'occasion, même pendant la pandémie, moi, j'avais un motorisé. J'ai fait le tour de l'Amérique du Nord. Puis en réalité, je partais une semaine par mois. Mais ma clientèle, ils ne s'en rendaient pas toujours compte. Je prenais mes appels, j'étais dans mon VR, j'avais mon laptop. J'étais en Californie, j'étais à Dead Valley. J'avais laissé mon VR à Vancouver. J'allais faire du ski à Whistler régulièrement. Ça, pour moi, c'est une belle liberté. Mais en même temps, ce que ça m'a permis, c'est de se dire, bon, si je ne suis pas là physiquement, mon organisation est là, je suis toujours là en support, mes clients veulent me parler, ils peuvent me parler.
Puis, dans le fond, là, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser quand on a une entreprise à service comme on a, est-ce qu'un de tes clients, à ce moment-là, est mal servi parce que tu es en VR? La réponse est... non.
Ça va dépendre comment tu vas prendre de temps pour t'en occuper de ton client.
Ça va, oui, mais ça va dépendre comment est-ce que tu as structuré ton entreprise. Exactement. Ça va dépendre qui t'entoure dans ton équipe. Exact. Donc, tu sais, puis souviens-toi qu'en 98, en tout cas pour ma part, moi j'ai commencé en 99. Fait que t'es plus jeune que moi, mais c'était impossible de dire à un client « je suis en vacances ».
Non, exactement.
C'était impossible.
Parce que premièrement, on était physiquement toujours là, avec les signatures complétées. Tout était différent. Ouais. Tout était différent.
aujourd'hui, je pense que même dans la nouvelle génération, c'est normal de dire, ben écoutez, je suis en vacances, j'ai l'équipe, je vais être là pour supporter si jamais quelque chose, mais moi, je...
Ça va seulement fonctionner si tu as bien fait les choses avant de partir. Ouais. Tu ne peux pas juste partir. Aussi,
effectivement. C'est...
Mais en même temps, là où... Parce que je reviens à la question que tu m'as posée, là, ce serait quoi mon objectif? Pour être bien honnête, il y a 2 ans, je me suis demandé si l'heure de la retraite n'était pas arrivée pour moi. Vraiment. Je venais parler avec ma conjointe. J'aurais pu arrêter. Et finalement, ma blonde a dit, « T'es-tu fou? Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? »«
Va t'endurer. Impossible.
» C'est ça. Là, j'ai dit, « Pas de problème, je continue, mais c'est vraiment un choix. » C'est vraiment un choix, en fait. Puis, ça a vraiment, vraiment tout changé, ça. Puis c'est là que je vois que, tu sais, à un moment donné, on veut avoir des objectifs qu'on veut atteindre. Puis, moi, une des difficultés que j'ai eues à l'âge de 30 ans, là, c'est que les objectifs que je m'étais fixés au bout de ma vie, là, c'était d'avoir des actifs ou des biens, là. Puis rapidement, ça, j'avais tout dépassé ça. Fait que je me suis dit, c'est quoi que j'ai besoin de plus jusqu'à temps que je comprenne que c'était de l'équilibre, puis du plaisir, puis du temps.
Exact.
Fait que si je suis capable de faire un travail ou une occupation du temps, OK, mais que je m'en rends pas compte que je travaille, là, pour moi, ça, c'est... J'ai pas la notion de retraite, là, elle est même pas dans ma tête en ce moment, là. C'est comme, je me plais à faire ce que je fais. Donc, quand je partais en VR, j'avais pas l'impression de me pousser, là, ou de pas m'occuper de mes affaires. Si le téléphone sonnait, j'étais content de prendre l'appel, puis de prendre des nouvelles de mon client, puis de faire
t'étais
suivre.
Beaucoup plus motivé, plus...
plus énergique. Ouais. Tu reviens, t'es allumé, t'es compétitif. Dans le fond, tu débordes d'énergie. Alors, au final, ça profite à tout le monde et même ta clientèle.
Mm-hmm.
Parce que ça te permet, au final, d'avoir une constance.
Clientèle, équipe, ouais. tout le monde qui t'entoure en reçoit le...
Exact.
25 ans, l'immobilier a eu le temps de changer énormément. Puis surtout dans les dernières années avec tout ce qui est l'informatique et tout ça. Il y a beaucoup de défis qui se passent en ce moment pour l'OACQ, pour le revirement de la pandémie immobilière, qu'est-ce qui s'est passé. Demain matin, tu es président de l'OACQ. Qu'est-ce que tu fais première journée?
Question piège, hein, ça?
Oui, c'est ça, tiens, Jeff.
Ben, en fait, c'est qu'à partir du moment où on comprend que la législation vient du gouvernement, même si tu es président de l'OACQ, tu n'as pas tant de pouvoir, hein? D'ailleurs, si on voit la nouvelle réglementation qu'ils nous ont imposée, l'OACQ a actuellement de la difficulté même à elle-même à interpréter la nouvelle réglementation.
Exactement.
Et présentement, là, sans le savoir, là, la majorité des courtiers ils font des actes immobiliers illégaux, mais c'est que la loi, elle n'est pas claire actuellement. Prenons l'exemple d'une promesse d'achat conditionnelle à la vente d'une propriété. Donc, je prends ta maison à vendre, conditionnelle à l'achat d'une autre, je n'ai pas le droit de prendre ta propriété à vendre, tu comprends? De ne pas pouvoir représenter ton client qui achète conditionnel à vendre sa maison, présentement, ça ne fait aucun sens. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que la législation défie le bon sens.
Je pense qu'il y a eu une panique aussi dans ce qui s'est passé. Il y a des décisions qui se sont prises trop rapidement. Mais
réactif.
Oui, réactif. Ça, effectivement, ça n'a pas de sens.
Mais moi, là, j'ai toujours prôné la législation. Tu sais, dans le fond, l'encadrement. Tu sais, je ne suis pas contre tout ça. J'ai aucun problème avec tout ça. Par contre, quand que j'ai besoin d'expliquer la loi à mon client, puis mon client me dit « Jeff, ça fait pas de sens. Je veux que ce soit toi qui vende ma maison, puis que j'explique que je peux pas la prendre à vendre. » Puis là, d'expliquer à mes courtiers qui n'ont pas le droit, là, c'est contre-productif. Là. J'ai de la misère à défendre cette portion-là.
Oui, parce qu'on on la comprend pas.
Mais on veut bien faire. Fait que c'est,
oui. Ou là, par exemple...
T'es convaincu...
Oui.
Que tu es le bon joueur pour ton client pour vendre sa maison, sans aucun doute.
Puis on parle de ça, là, mais il y a tout l'aspect relation d'affaires et confiance qui est établi. Là. J'ai l'impression que la majorité du monde paye pour quelques situations extrêmes. Mais personnellement, je trouve ça un peu inquiétant, mais en même temps, après 25 ans d'expérience, il y a toujours des histoires de même qui se passent, puis les choses finissent toujours par se mettre en place. Il y a plein de monde qui vont arrêter d'avancer parce qu'ils vont avoir peur d'avoir peur. Ça. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut regarder ça d'un œil attentif. Si la législation dit que c'est comme ça, on va la respecter, on n'a pas le choix. Il faut s'adapter. Ce qui est bon pour Pitou, il est bon pour Minou d'une manière ou d'une autre.
Oui, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
Mais on est là pour... tu sais, l'OACQ est là pour représenter le public, tout comme nous.
Oui.
Mais quand la législation pénalise, à l'inverse, le public, c'est paradoxal.
Exactement.
Alors,
mais peut-être qu'il y a des décisions qui ont été prises par des gens qui n'étaient peut-être pas nécessairement assez expérimentés pour être capables de mettre cette réglementation-là en place non plus. C'est délicat. C'est très délicat. D'ailleurs, nous, on a beaucoup de formations dans nos deux agences pour être capables d'encadrer les courtiers, mais on n'est pas capable d'avoir le support de l'OASIC ou des opinions légaux. Je pense que c'est lors des prochains jugements, en fait, qu'on va être capable de savoir c'est où la ligne.
J'ai parlé de ça avec des invités aussi.
Oui, exactement.
On avait le même discours, puis des invités avec beaucoup d'expérience comme toi.
Oui.
Qu'est-ce que tu cherches d'un courtier quand tu as un poste à combler dans ton équipe?
Moi, là, quand j'embauche un membre dans mon équipe, dans l'équipe Bérubé, là, je vais embaucher parce que j'ai un besoin à combler. J'embaucherai pas dans le but de faire grossir l'entreprise. OK? Donc, moi, j'ai toujours été un lead generator. Là. Moi, mon travail, c'est le développement. Et là, quand je vois que tout le monde est bien occupé, là, c'est là que je vais intégrer pour m'assurer d'avoir toujours quelqu'un de disponible. Et c'est important pour moi que mes courtiers gagnent très bien leur vie. Très bien. Donc, tout le monde dans mon organisation, là, pour la plupart, font même plus que s'ils étaient autonomes seuls. Okay? Moi, là, quand je décide d'embaucher, souvent, ce qui va arriver, c'est que, étant aussi propriétaire de l'agence, mais pas directeur, j'ai une grande salle. Je mélange les nouveaux courtiers avec mon équipe. Puis c'est là que je vois la chimie, comment qu'elle se transforme. Et l'intégration des nouveaux membres se fait naturellement. Ça a toujours été comme ça. J'ai jamais imposé personne. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix. Puis on va en faire encore.
C'est sûr.
On va en faire encore. Mais au final, ça a toujours été basé sur la chimie de l'organisation. Parce que si tu intègres une nouvelle personne, mais que tu en démotives deux autres dans l'équipe, tu n'es pas d'avance. Donc, à un moment donné, tu es probablement mieux de dire, ben tel type de dossier, on le prend plus parce que ça prend trop de temps, puis on va se concentrer sur d'autres dossiers pour s'assurer de maintenir cette organisation-là. Jean-Sébastien, c'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le même noyau depuis autant d'années. T'sais. Oui, j'ai de nouvelles personnes qui s'intègrent, mais l'essence de l'organisation, là, elle est la même depuis toujours. T'sais, je regarde, souvent les gens vont me dire « Ah, t'as-tu vu tel courtier faire telle affaire? » Je suis très peu intéressé à regarder ce que les autres font, pour être bien honnête. Là. Puis pas parce que ça me dérange, ça m'intéresse pas. OK? Les émissions sur le courtage immobilier, j'en ai jamais regardé une. J'ai pas d'intérêt. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, demain, pour être capable de faire mieux qu'aujourd'hui. Ça a toujours été. J'ai jamais développé mes outils en fonction de ce que le compétiteur faisait. J'ai toujours développé mes outils. Moi, aujourd'hui, je suis consommateur. Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que ça me prend? J'ai toujours travaillé vraiment...
Sur ton focus.
Sur mon focus, exactement. Puis, souvent, ce qui fait en sorte qu'au final, les autres courtiers des autres agences que je respecte énormément, je les connais peu parce qu'en réalité, je suis entouré de mon organisation. On est concentré sur nos affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'offre au service à clientèle, c'est la priorité. 90 % de mon chiffre d'affaires, c'est de la référence. Tout ce qu'on va faire en développement, là, c'est à peine 10 % de mon chiffre d'affaires. L'année dernière, c'est pour 150 millions de volumes d'affaires qu'on a fait.
Bravo.
Pour Sherbrooke, c'est énorme. Mm-hmm. C'est énorme.
Il y a combien de portes à Sherbrooke?
En fait, c'est une population de 200 000.
OK.
Ouais. Fait que c'est pas si grand.
Non.
Toute la ville a été vendue, puis là, c'est du nouveau monde.
Les gens nous appellent. « Ouais, j'ai une maison sur telle rue. Ah, c'est-tu la bleue ou en brique rouge? »
Right.
C'est ça.
Bon. C'est un petit marché qui fait en sorte qu'on ne peut pas, par exemple, se spécialiser uniquement dans les bords de l'eau, ou uniquement dans les résidences, par exemple, d'entrée de gamme. On est obligé de toucher un peu de tout. Mm. Commercial, industriel, les terres agricoles. Mais avec l'organisation qu'on a, j'ai vraiment des départements. Fait que les départements ne se touchent pas, mais on est capable vraiment là, de segmenter tout ça.
Où s'en va l'immobilier?
Moi, je fais partie de ceux qui sont très optimistes. Oui. Personnellement, il n'y a rien qui m'inquiète. Je pense que l'erreur que j'ai faite dans le passé, là, ça a été souvent de dire... Le marché va tomber, ça va mal aller, ça c'est jamais arrivé.
Ans, il a c'est jamais tombé, arrivé. Même dans une pandémie.
Ouais. Finalement, là, le 25 ans, on aurait dû acheter tout. Hein? Même
on
ce qu'on pensait.
Des terrains de 10 sous le pied carré.
Ouais,
là.
Exactement.
Aïe, 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 mais ça, tu sais.
Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce que je trouve différent, c'est que le marché immobilier dépend d'une situation économique mondiale. Quand on voyage, on réalise à quel point au Québec et au Canada, on est chanceux d'avoir un territoire aussi grand, OK? Puis d'après moi, toute la notion d'immigration que le gouvernement nous parle, d'amener ça à 500 000 par année, je pense que si on voulait 3 millions par année, il serait capable d'en avoir 3 millions, là. Parce qu'on est vraiment chanceux de vivre au Canada, au Québec. En Estrie, c'est encore plus beau qu'ailleurs.
OK, on met les gants? Ou...
Mais pour vrai, je ne m'attends pas à une diminution des valeurs, un ralentissement. Puis comme je dis si bien, même si la valeur diminuait de 15 % à quoi on va se retourner au prix de vente qu'on avait il y a un an, un an et demi?
C'est ça.
C'est pas dramatique, là.
Exact.
C'est pas dramatique.
Si tu étais un vendeur, puis tu cherchais un courtier immobilier avec les connaissances que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais besoin?
Si j'étais propriétaire d'une maison, que j'avais besoin d'un courtier, qu'est-ce que je rechercherais d'un courtier? Tu vas me dire, je prêche pour ma paroisse, mais je me dirigerais certainement vers une équipe pour être capable d'avoir une constance sur 7 jours sur 7. À l'année, d'avoir quelqu'un qui est responsable de mon dossier, numéro un. Mais je me dirigerais aussi certainement vers l'équipe qui a le plus grand volume. Parce que plus grand volume, là, on ne parle pas de dollars, là, ça veut juste dire que c'est cette personne-là qui a le plus grand réseau de contacts. Puis en réalité, tout passe par les contacts. Les gens nous appellent pour vendre. On a l'acheteur, la transaction se fait rapidement. Là, les gens vont dire « Wow, il me semble que c'est beaucoup de milliers de dollars pour le temps investi, mais les gens ne comprennent pas le temps et l'argent que nous, on a investi pour développer ce réseau-là. Donc, les gens nous payent pour profiter de notre réseau. Mm-hmm. » Fait que moi, c'est sûr et certain que je me dirigerais. Puis au même titre, Jean-Sébastien, que j'ai un client référé dans un marché, je vais le référer, je le dis, peu importe la bannière, je vais le référer au courtier top du secteur.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment ça. On va travailler pour le client.
Comme j'ai
d'abord
fait
et avant
il y a 17
tout.
Ans.
Oui, exactement. Exactement. Ouais.
Mais c'est. Tu sais, puis il y a beaucoup de jeunes courtiers ou de futurs courtiers qui nous écoutent. Ce que tu donnerais comme passe à la palette à ces gens-là pour commencer?
La paix réponse, quand je demande aux jeunes pourquoi tu vas faire l'immobilier, c'est s'ils me disent j'aime beaucoup les maisons. Ça, c'est la paix réponse que je peux avoir.
Alors, ne dites plus jamais ça. Mais je suis d'accord avec toi parce qu'on sait bien que c'est 90 % des courtiers qui vont dire ça.
Ouais.
Moi, je suis toujours sur MLS.
S'il vous plaît, venez pas en immobilier pour faire de l'argent.
Ouais.
Parce qu'honnêtement, il y a d'autres domaines puis d'autres milieux beaucoup plus rentables en passant. Faut faire ça parce qu'on a le goût de rendre service. C'est vraiment ça. On vend du service. Les gens ne réalisent pas à quel point, en fait, faut faire ça par passion. Faut qu'on soit intéressé. Évidemment, oui, par les propriétés, mais surtout par les valeurs, le comportement du marché, s'intéresser à la lecture économique, quand on parle des taux directeurs, s'assurer d'avoir un bon réseau pour partager les bons planificateurs financiers, les bonnes institutions financières, les courtiers hypothécaires. Je pense qu'il faut vraiment s'assurer que les jeunes courtiers mettent l'intérêt de leurs clients en avant de tout. Puis après ça, là, tout va suivre. Mm-hmm. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête. Tout mm-hmm. va suivre.
Comment est-ce que... tu as parlé beaucoup de l'équilibre. Comment est-ce que toi, tu l'as trouvé, ton équilibre? Comment est-ce que tu suggérais aux gens de trouver l'équilibre dans l'immobilier?
Mais quand je vous ai dit que les 10 premières années, pour moi, avaient été extrêmes, là, ben pour moi, ça a été un peu taper le fond. Hein? Fait qu'à un moment donné, tu sais, en mode survie, tu dis qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer de me maintenir? Puis c'était hors de question que j'abandonne toutes les années d'expérience que j'avais mis en place. Ouais, hein, t'sais. Donc, de toute évidence, il y avait une carence importante dans mon organisation. Donc, pour moi, ça a été un moment donné de se dire, ben en fait, indépendamment des entrées d'argent, on va embaucher des gens compétents pour s'assurer de découper l'organisation, de faire confiance aux gens, de dire à ton employé, à l'administration, vous prenez des décisions, même si ce n'est pas les mêmes que moi, je vais les assumer. Ça va faire en sorte que tu vas avoir du staff plus autonome, plus indépendant, qui vont te donner beaucoup de liberté. Fait que c'est des petites tâches comme ça qui vont faire qu'on va être capable d'avoir une vie plus simple.
Ça, c'est un sacré bon conseil comme entrepreneur parce qu'on l'entend souvent, mais de le mettre en application pour plusieurs, de déléguer, c'est extrêmement difficile. Surtout quand tu réussis à développer une équipe, un marché. Tu le sais, pendant 10 ans, tu as suivi ton front, tu as manqué des événements familiales pour arriver là. Après ça, ben faut que tu prennes la décision de dire, ben parfait, ce que j'ai bâti, je vais déléguer.
Ouais.
C'est un défi. Ouais.
Mais dans mon équipe, si j'avais à mettre ma maison à vendre, c'est sûr que j'engage un courtier, je vais mettre le nom de tout le monde, je vais piger le nom. Je vais faire compte. Ça, c'est la base numéro un.
Ouais.
Est-ce que moi, je donnerais ma maison à vendre à n'importe qui de mon équipe?
Est-ce que tu la donnerais à Jean-François Bérubé?
Certainement.
C'est drôle, j'étais sûr que tu allais répondre ça. Aïe, aïe, aïe.
Sans l'ombre d'un doute. Ah ouais.
Jeff... Moi aussi.
Ouais, non, c'est ça. Même aussi, finalement.
Ouais.
L'investissement immobilier, c'est-tu quelque chose qui, en parallèle, t'a interpellé?
J'ai eu plusieurs portes pendant quelques années. Je montais à 34 portes. J'ai tout vendu ça par manque de temps. J'ai jamais regretté, mais moi, ça a été plus du terrain.
Okay.
En fait, le développement, en fait, l'acquisition de terrain. Ouais. Au fil des années que j'ai jamais revendu ou que j'ai jamais subdivisé, peut-être un projet de retraite
okay.
à un certain moment donné. J'ai différents condos que je loue ici et là. Mais oui, j'ai quand même une bonne partie de mes actifs
sont dans l'immobilier. Parce que Sherbrooke, au niveau des terrains, dernièrement, beaucoup de zonages ont été changés et tout ça.
Exact.
Mais Sherbrooke, est le marché, autant résidentiel, commercial, industriel, reprends-moi si je me trompe, mais...
C'est
exceptionnel.
C'est vraiment exceptionnel ce qu'on a vécu en Estrie. Pénurie de maison, là, c'est pas un punch de vendeur. Là. C'est vraiment une problématique. Là.
Oui. Vous êtes à combien d'inscriptions présentement?
Actuellement, dans l'équipe ou dans tout Sherbrooke?
Dans l'équipe.
Dans l'équipe, actuellement, on doit être environ autour de 75 listings.
Quand même.
Oui. Mais l'inventaire augmente tranquillement. Le volume de vente est là. Là, je vous dis ça, je me garde une petite gêne parce que depuis 2 semaines, on voit que les ventes ont diminué puis l'inventaire tend à augmenter dans les plus petites maisons.
Oui.
Tout ce qui a trait au bord de l'eau, ça se passe très bien encore. Évidemment, ces acheteurs-là ne sont pas impactés de la même façon au niveau économique.
Mm-hmm.
Dans l'immeuble locatif, on voit actuellement avec les hausses de taux que les valeurs économiques là, ont été affectées. Léger ralentissement. SCHL, les délais de traitement de dossier sont autour de 6 à 7 mois. C'est un petit peu plus lent. Peut-être que cet automne, ça va être un peu plus tranquille. Mais actuellement, là, ce qui maintient nos valeurs, c'est le manque de maisons sur le marché. On est en promesse d'achat multiple quasiment dans tous nos dossiers encore aujourd'hui. Là.
Ah, c'est incroyable.
Oui. Mais ça va bien. C'est ça le point.
Bien,
Parce que là, ce qu'on gère, c'est une décroissance d'une période extraordinaire.
C'est la réalité.
Mais si on n'avait pas eu la période pandémique, là, on se rend compte. Puis on se comparait il y a 10, 12 ans, on est dans une période extraordinaire. Là.
Ouais.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Ouais. GF, je viens de rencontrer quelqu'un qui a de l'aplomb, qui sait où ce qui s'en va. C'est du vrai bonbon pour les courtiers qui veulent avoir des IN, qui veulent avoir une direction à prendre.
Surtout ton leadership, je pense que c'est vraiment...
Leadership, expertise. Oui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Une belle rencontre, très intéressant. Puis on continue ça peut-être un autre épisode.
Oui,
ça serait le fun.
Merci, Jeff. Merci, Megan.
Merci.
Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierre décorative. Ils vendent, ils designent, ils installent et livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la Salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.